Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground.
Voilà, c'était seulement pour vous faire entendre ce gospel, pas d'auteur, auteur inconnu, sans doute un esclave dans les plantations de canne à sucre, qui a connu des souffrances épouvantables, et c'est ce qui est, je vais traduire quand même ce cantique, parce que tout le monde ne parle pas l'anglais, moi non plus d'ailleurs. Personne ne connaît les malheurs que j'ai traversés, personne ne les connaît, sauf Jésus, but Jesus. Personne ne connaît les malheurs que j'ai traversés. Gloire, alléluia. Tantôt je suis en haut, tantôt je suis en bas. Oh oui, Seigneur. Parfois je suis presque par terre. Oh oui, Seigneur. Et puis le refrain, personne ne connaît les malheurs que j'ai traversés. Personne ne les connaît, sauf Jésus. Maintenant, vous pouvez penser que je ne sais pas ce que je dis, mais j'ai connu des souffrances ici-bas. Oh oui, Seigneur. Un jour, j'allais mon chemin. Oh oui, Seigneur, le ciel s'est ouvert et l'amour est venu sur moi. Oh oui, Seigneur. Qu'est-ce qui pousse le vieux Satan à me haïr tant? C'est parce qu'autrefois, il m'a tenu et a dû me lâcher. Oh oui, Seigneur. Alors, on a dans ce cantique, c'est pas tellement pour la musique que je l'ai fait entendre, mais c'est parce que les paroles correspondent tout à fait à notre sujet de ce soir et sont d'une grande profondeur et ont été écrites par quelqu'un qui connaît la souffrance. Et il a trouvé aussi non seulement une souffrance terrible, mais il a trouvé la consolation. Et la consolation, c'est que si personne ne peut entrer dans ses souffrances, un peut le faire, une personne, Jésus. Et le quartet là qui chantait ce cantique, je ne sais pas si c'est une chorale chrétienne, j'ai l'impression que oui, parce que ils ont senti et fait et traduit cette opposition entre la souffrance ressentie, la consolation d'avoir quelqu'un qui écoute et comprend, et puis cela ouvre sur la louange. Gloire, alléluia. Et ils ont bien marqué la différence en chantant très fort ce Gloria, alléluia. Voilà, ce cantique que j'ai donc découvert par un livre sur le sujet. Donc vous avez, je pense, si vous avez assez de feuilles, sinon il y en a là sur la table. Vous pouvez, oui, comme il y en a en supplément, vous pouvez en prendre une par personne. Il y a des choses que je vais dire qui ne sont pas écrites. Je fais exprès pour que vous leviez un peu le nez. Soyez pas toujours le nez dans le guidon. Alors le plan, vous le voyez, les difficultés de la vie chrétienne, quelques solutions. On va énumérer un peu ces difficultés. Deuxièmement, pourquoi la souffrance? Le troisième chapitre, j'ai peur de ne pas pouvoir tout traiter ce soir, alors on va peut-être le sauter. Quatrième chapitre, la souffrance a-t-elle un sens? Cinquième chapitre, doit-on demander à être indemne de toute souffrance? Et sixième chapitre, comment réagir et puis en même temps, quelles sont les ressources pour vis-à-vis de la souffrance? Alors en introduction, je dirais que quand Nathanaël m'a proposé de traiter ce sujet, j'ai dit non, parce que je ne me sens pas du tout capable de traiter ce sujet. Et je suis très très gêné de parler de quelque chose devant des personnes qui ont connu des épreuves bien plus dures que moi-même. Alors voilà, donc par avance, je vais m'excuser auprès de chacun ici. Si j'ai l'impression quelquefois de faire la leçon à quelqu'un, c'est vraiment pas volontaire, je veux vraiment faire la leçon à personne. Et avant tout, en introduction, je voudrais rappeler ce verset de Jacques 5, verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Alors ce verset est central pour ce sujet. D'abord, il y a trois pensées dans ce verset. Première pensée, la patience de Job. Job a été patient au début, c'est vrai. Il a supporté des épreuves terribles sans rien, sans se rebeller. Et puis après, il a été impatient et terriblement impatient. Il y a eu des paroles d'impatience. Et qu'est-ce que Dieu retient? Il ne retient pas l'impatience, il retient la patience. Et c'est la façon d'agir de notre Dieu. Des milliers d'années après, la leçon que nous retirons de Job, c'est d'abord sa patience. Dieu est positif. Deuxième pensée, le Seigneur est plein de compassion. Qu'est-ce que c'est que la compassion? Il y a deux mots là-dedans. Le radical, passion, souffrance, passion du Christ, et « com » qui signifie « avec ». Compassion, c'est que Dieu souffre avec sa créature qui souffre. Compassion. Le Seigneur est plein de compassion. Et miséricordieux. Miséricorde, c'est un cœur sensible à la misère. Miséricorde, hein, ça se traduit, c'est facile à comprendre. La miséricorde, compassion et miséricorde. Alors j'ai cherché un peu dans la concordance d'Arby, le mot compassion, dans le Nouveau Testament, on le trouve assez peu souvent, dans l'Évangile, quelquefois, dans la parabole du bon samaritain, ému de compassion, le bon samaritain se penche sur celui qui est à demi-mort au bord du chemin et s'occupe de lui et commence par panser ses plaies, y versant du miel et du vin, c'est ça, non ? Et puis, il est plein de compassion, le Seigneur, devant la mort. Luc 7, la veuve de Naïn. Il est plein de compassion quand il voit les foules dispersées, qui n'ont pas de berger. Cette compassion, alors, le Seigneur vraiment en est rempli. Dans l'Ancien Testament, on a aussi des versets magnifiques au sujet de la compassion. Dans Isaïe 63, « Ô Dieu, où est le frémissement de tes entrailles et de tes compassions ?» Isaïe 63, verset 15. Osée 11, verset 8, « Toutes ensemble, mes compassions se sont émues. » Là, c'est Dieu qui parle. « Toutes ensemble, mes compassions se sont émues pour le peuple d'Israël qui souffre. » Alors, cette compassion, elle est déjà dans l'Ancien Testament, toute proche de nous, toute un trésor pour chacun de ceux qui souffrent. Il y a le mot sympathie qu'on trouve aussi très peu dans le Nouveau Testament. Hébreux 10, vous avez montré de la sympathie envers les prisonniers. Mais par contre, on a le verbe sympathiser, Hébreux 4, à la fin du chapitre 4. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut sympathiser avec nos infirmités. Et là aussi, on a le même radical, pathiser, patior, qui signifie souffrir. Et comme passion, hein, et signe qui signifie être au diapason de, comme dans symétrie, synchronisation, signe. Hein. Dieu est au diapason de nos souffrances. Jésus, encore plus, est au diapason de nos souffrances. Il vibre quand nous souffrons parce que lui a souffert étant éprouvé, tenté comme nous, à part le péché. Alors, on va peut-être faire passer au chapitre premier, voir les différentes difficultés de la vie. C'est vrai que quand on se convertit, on est joyeux, on est heureux, on est libre, on sent cette liberté, cet amour de Dieu, et on a l'impression que tout va aller bien jusqu'au ciel, sans difficulté. Et puis, tout à coup, les difficultés arrivent, et ça désarçonne, hein, ça inquiète. On se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il des difficultés ? Est-ce que c'est normal que le chrétien connaisse des difficultés ? Jésus n'a-t-il pas porté nos douleurs ? N'est-il pas ressuscité ? Ne sommes-nous pas une nouvelle création ? La puissance de Dieu n'est-elle pas pour nous ? Dieu ne peut-il pas faire des miracles ? Hein, toutes ces questions qui reviennent et puis on ne comprend plus. Alors les difficultés, eh bien, on va y revenir, c'est le sujet. Pourquoi et est-ce que c'est normal ? On a cette question dans l'Évangile. Au moment de la mort de Lazare, les foules disent « Celui-ci, Jésus, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire aussi que Lazare ne mourût pas ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-il laissé mourir Lazare qu'il aimait ? C'était son ami. » Et c'est juste après la guérison de l'aveugle-né, Jean 9, Jean 11. Hein. Et voilà cette question que tout le monde se pose. Les incrédules se posent beaucoup de questions à ce sujet, au sujet de la douleur, de la souffrance, et le croyant aussi. Alors, quelques difficultés, les maladies, bien sûr, les échecs, les fautes, les déceptions, l'incompréhension, les questions sans réponse, la non-réponse aux prières, le doute, l'incertitude, le brouillard, la solitude, le refroidissement spirituel, et puis on pourrait dire la persécution, mais j'en parlerai pas. Et puis, on parlera peut-être aussi de l'emprisonnement, de la captivité. Alors, quelques réponses devant les difficultés. Au sujet des maladies, on a le psaume 41 que vous connaissez. « Dieu le soutiendra sur un lit de langueur. Tu transformeras tout son lit quand il sera malade. » Alors, auparavant, si on lit les mots qui précèdent, il est dit « Bienheureux celui qui comprend le pauvre. » Donc ça s'adresse à quelqu'un, un croyant qui use de grâce et de compassion envers les pauvres. Et à lui est donnée cette promesse que son lit, s'il est malade, sera transformé. Et Dieu le soutiendra. Je pense que c'est une promesse qui n'est pas donnée en l'air. Et si on est proche et qu'on on est un cœur sensible à la souffrance, eh bien, il y a une promesse particulière que Dieu nous fait, qui nous soutiendra quand notre tour viendra. Dans Jérémie 17, verset 14, on a un verset qui est tout différent. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car c'est toi qui es ma louange. » Alors, on a là donc deux réponses de Dieu, pour ainsi dire. L'une qui dit « Je te transforme, je te soutiendrai dans la maladie, et je ne te guérirai pas forcément. » Et l'autre qui dit « Eh bien oui, Dieu, guéris-moi. » Eh bien, tantôt, Dieu laisse dans la souffrance, mais porte, soutient, fortifie, et tantôt Dieu délivre. Et on voit souvent des délivrances de la souffrance. On reviendra là-dessus. Les échecs. Alors les échecs, ça, c'est surtout quand on est jeune qu'on en connaît le plus, au démarrage. Hein. Et puis, alors que faut-il faire devant un échec? D'abord, penser que Dieu ne change pas. Lui ne connaît pas d'échec et il est là, donc c'est comme un train qui avance, hein, et qui nous porte et qui nous pousse en avant. La puissance de Dieu est là pour nous prendre en charge et nous faire remonter. Et puis l'échec nous permet à chacun de prendre la mesure de ma faiblesse. De sorte que les échecs ne sont pas inutiles, hein, dans la vie chrétienne. On en a peut-être besoin. Les fautes, les chutes. Alors, je commencerai par ce que j'ai rajouté là. Psaume 37, verset 24, hein, vous l'avez, je crois, dans vos papiers. « Par l'Éternel, les pas de l'homme sont affermis. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel soutient sa main. » C'est un beau verset, ça. J'ai trouvé comme ça, au hasard de nos lectures du matin, sur les psaumes. « Par l'Éternel, les pas de l'homme sont affermis. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu. » Donc le chrétien peut tomber, mais s'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu. Dieu va le relever et l'Éternel va soutenir sa main. Ça, c'est une promesse magnifique. Et puis, lorsque nous sommes tombés, eh bien, prenons du recul et réfléchissons devant Dieu pour chercher les causes de cette chute. En général, une chute n'est jamais isolée. Elle est précédée d'un déclin, d'un refroidissement des affections, ou bien d'un... On s'est permis peut-être des choses qui ne vont pas, des compromis avec le monde, et petit à petit, on est entraîné, et patatras, la chute arrive à ce moment-là. Et c'est le moment de, quand on est tombé, de réfléchir devant Dieu, « Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui m'arrive? Montre-moi ce qui s'est passé. » Non, une chute permet d'apprendre beaucoup sur soi, et sur Dieu. Les déceptions. Alors la déception, je pense spécialement aux déceptions de la part des chrétiens. On entend souvent des jeunes croyants qui disent « Oh ben moi je ne vais plus nulle part parce que j'ai été déçu par toutes les églises où je suis allé. » Alors, oui mais c'est quoi l'église? Vous ne faites pas partie de l'église vous? Mais si. Donc au lieu de critiquer votre église, participez à la vie de l'Église, ajoutez votre pierre. Quelqu'un disait, c'est un feuillet de la Bonne Semence, je crois, du mois de juillet, l'image de la pompe qu'il faut amorcer. Pour qu'une pompe puisse être amorcée, il faut commencer par mettre de l'eau dedans. Eh bien, pour l'amour, c'est la même chose. Hein. Si vous cherchez toujours de l'amour chez les autres, vous n'en trouverez pas. Il faut commencer par aimer vous-même. Hein. Et cet amour va amorcer la pompe et tout ira bien. Et puis, autre danger, c'est de mettre l'Église au-dessus du Seigneur. Et ça, c'est un grand danger aussi. L'Église n'est pas parfaite. Aucune Église n'est parfaite. C'est le Seigneur, lui, est parfait. Alors, n'attendons pas tout des autres, mais accrochons-nous au Seigneur. La non-réponse aux prières. Alors, si Dieu ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il est sourd, mais qu'il a un plan. un objectif différent du mien, que je ne connais pas. Dans Jean 11, par exemple, Marthe et Marie ont un plan. Elles ont une façon de résoudre la question. Lazare est malade, on va envoyer un messager à Jésus, Jésus va guérir Lazare. C'est clair, c'est net, ça va se passer comme ça. Mais Jésus a un plan différent. Et souvent, le Seigneur a un plan qui n'est pas le nôtre. Et nous avons de la peine à l'accepter. J'ai cité la femme cananéenne aussi, cette femme dont la fille souffrait d'un démon. Elle vient supplier le Seigneur et le Seigneur ne lui répond pas. Il fait semblant de ne pas entendre. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a un plan pour cette femme et pour la gloire de Dieu. Il va faire briller la foi de cette femme en la faisant patienter un peu. Et quand elle va dire « Oui, Seigneur, les chiens mangent des miettes qui tombent de la table », c'est extraordinaire cette réponse d'humilité et de confiance. Alors le Seigneur dit « Ah, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Mais entre-temps, la foi, la force de cette femme a brillé et glorifié le Seigneur. Voilà en quoi le plan de Jésus n'est pas forcément mon plan. Le doute, hein, qui n'a pas connu le doute dans la vie du chrétien ? Et le doute, il ne faut pas se dire « le chrétien ne doit jamais douter ». Il y a des circonstances qui peuvent nous amener à douter, justement. L'épreuve, la souffrance peut nous amener à douter un jour. Est-ce que j'ai fait fausse route ? Est-ce que ce Dieu en qui j'ai cru est un faux Dieu ? Où est-ce que j'en suis ? Alors Jean le Baptiseur a traversé le doute. Jean le Baptiseur, en prison, dans un cachot, s'est demandé, mais ce Jésus dont j'ai dit « voici l'agneau de Dieu », est-il vraiment le Messie ? Jean le Baptiseur, pourtant, quel prophète énergique et fidèle, a eu un moment de doute, comme quoi nous pouvons aussi douter. Et alors, il n'y a pas de réponse toute faite. Le Seigneur donnera la réponse en fonction de l'épreuve que chacun traverse. La réponse que le Seigneur donne à Jean-Baptiste, c'est allez et dites à Jean ce que vous avez vu et entendu, parce que Jésus fait des miracles à ce moment-là devant les disciples de Jean. Et dans sa réponse, le Seigneur, quand même, c'est une indication, le Seigneur montre à Jean, tu vois, ce qui se passe, les miracles, sont une réalisation des prophéties. Ésaïe 61... Zacharie 9, etc., qui parle des miracles que le Messie va accomplir. Et donc Jésus dit à Jean, la parole s'accomplit. Et avec cela, je pense qu'il a touché juste. Parce que Jean le Baptiseur connaissait la parole de Dieu. Et ça a été pour lui quelque chose de très solide. L'incertitude, le brouillard, on ne voit plus son chemin. Ça arrive aussi, ça, qu'on soit dans le noir complet. Vous avez déjà été dans le noir complet, en forêt, par exemple. Aucune lumière ne passe quand il n'y a pas de lune. On ne voit plus le chemin, on ne sait plus si c'est à droite, si c'est à gauche. On ne sait même pas faire un pas en avant. C'est assez impressionnant. Eh bien, ça peut nous arriver aussi dans notre chemin. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, il faut peut-être attendre. Attendre que la lumière vienne. Prier, bien sûr, demander au Seigneur, éclaire-moi. Et puis peut-être qu'il faut attendre un peu. La lumière ne va peut-être pas se faire tout de suite. Dans le désert, Israël ne devait pas avancer si la nuée n'avançait pas. Et nous devons faire pareil dans notre vie de chrétien. N'essayons pas d'avancer si Jésus ne nous montre pas le chemin. Pas facile. Mais tôt ou tard, le Seigneur va dissiper le brouillard. La solitude, c'est une épreuve terrible, hein, physique, mais aussi morale. On peut être entouré de beaucoup de gens et être seul. Et avoir l'impression que personne ne nous comprend. Personne n'est sensible à notre souffrance. Alors Paul l'a dit, hein, personne n'a été avec moi, 2 Timothée 4, 17. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Paul, seul, devant Néron, peut-être, devant en tout cas l'empereur, devant ses accusateurs, la mort était en face, tout seul dans sa défense. Ça a été dur pour lui, mais le Seigneur l'a fortifié. Dans la solitude aussi, demandons au Seigneur de nous montrer les personnes capables de m'aider, ou prêtes à m'aider. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que les autres pour apporter un soutien. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une sœur qui, en apparence, était peu souriante, pas très affable. Et puis, je l'ai surprise à un moment donné en train de parler avec un jeune qui avait des difficultés. Et j'ai vu tout de suite qu'elle était au diapason de ses difficultés. Et le jeune l'écoutait et il y avait un dialogue, un échange. Et cette personne qui, en apparence, était peut-être froide, était en fait très sensible. Alors, prions le Seigneur, montre-nous le frère, la sœur, qui va me faire du bien, dont j'ai besoin, sur qui je vais pouvoir un peu m'appuyer. Et puis aller vers ceux qui souffrent elles-mêmes de solitude. Je ne suis pas seul à être seul. Alors, au lieu de gémir dans mon coin, je vais chercher ceux qui sont seuls comme moi pour les aider. Et alors, vous verrez ce miracle qui s'accomplit. Le refroidissement spirituel, ça peut arriver à n'importe qui aussi, croyant, tout spécialement à des serviteurs qui se dépensent beaucoup dans le service du maître, et puis tout à coup, ils craquent. On dira que c'est un burn-out, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, une espèce de déprime, on ne sait plus où on en est, on n'a plus envie de lire la Bible, on n'a plus envie de prier. On sent comme une distance vis-à-vis de Dieu et du Seigneur. Alors, quoi faire? Alors, j'ai mis d'abord chercher la cause de ça, il faut le faire après ça. D'abord, pour sortir du trou, bien sûr, il y a la prière. Moi, je pense tout à coup à un autre remède encore, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le remède qui a été expérimenté par des serviteurs du Seigneur qui sont passés par là, et j'ai cité Alain Stamp, qui a été dans ce local, je pense, et qui a été à la Bessonne et qui a composé plusieurs cantiques pour les enfants et avec les enfants. Et il a été, c'est un chanteur, donc chrétien, et il a été beaucoup demandé pour des tas de services. Puis un jour, il a craqué. Je crois que sa femme était très malade en plus. Et ça a été très, très dur. Et dans sa... J'ai vu quelque chose sur Internet où il dit que sa ressource, ça a été de se mettre à étudier la Bible de manière systématique. Qui dit systématique, c'est matin, midi, soir. Évangile, ou alors non. Nouveau Testament, Ancien Testament, psaume. Au moins, c'est trois choses, tous les jours, en notant où on en est, et on continue chaque jour. C'est pas un mystère, beaucoup de serviteurs l'ont fait, mais c'est la clé pour sortir du trou, pour être fortifié. La parole accompagnée de la prière, bien sûr. Puis alors j'avais dit, et chercher la cause, quelles sont mes priorités, mon plan ou la volonté de Dieu. Bon, ça c'est une recherche qui est dans toutes les épreuves. Nous, c'est profitable de faire cela, mais il faut d'abord sortir. Il faut pas, si on met la charrue avant les bœufs, si on cherche la cause de notre chute ou de notre déprime avant d'en être délivré, alors là, c'est le meilleur moyen pour s'enfoncer encore plus. Chapitre 2, pourquoi la souffrance? Alors, on a ces questions, pourquoi, on la retrouve dans les psaumes 42, 43, pourquoi es-tu abattu, mon âme? On la retrouve dans la bouche de Pierre, dans Jean 13, versets 36, 37, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Alors, pourquoi? Eh bien, parce que Pierre n'était pas capable d'aller à la croix avec le Seigneur. Il n'était pas capable. Et puis, Jésus avait un autre plan pour lui. Et puis, il fallait que Pierre passe par toute une formation préalable, une maturation. Et un jour, après cette maturation, Pierre va être capable de mourir pour le Seigneur. Mais quand il a dit « Pourquoi ne puis-je pas te suivre ?» à ce moment-là, il n'en était pas capable. Vous savez, je ne sais pas si vous savez quand les bourgeons commencent à pointer sur un arbre. À la fin de l'été, à l'automne. Tout petit, puis ils grossissent même pendant l'hiver. Et ils ne s'ouvrent que, bon, à Valence au mois de mars, ici un peu plus tard, hein, les fleurs. Et puis le fruit, lui, il arrive quand? Pas avant. Une pomme, par exemple, elle fleurit très tôt, au mois d'avril, mettons, fin de chez nous. Et puis la pomme, on l'accueille fin août, septembre. Il en faut du temps. Ça fait en tout combien ça? Presque une année de maturation, de formation. Alors nous ne pouvons pas, prendre un raccourci et aller plus vite que la musique. Non, nous avons tous besoin de formation. Et Pierre avait besoin de formation. Et si Jésus lui avait répondu cela, à ce moment-là, il n'aurait pas compris. De sorte que Jésus ne répond pas à sa question. Pourquoi ? Jésus ne répond pas. Il ne peut pas répondre. Pierre allait comprendre plus tard. La même chose pour Job. Job pose beaucoup de questions, surtout à la fin de son livre. Il se rebelle, il accuse même Dieu d'être injuste, alors que lui est juste. Ça va très loin. Mais quand Dieu lui répond, c'est étonnant, il ne répond pas pourquoi à ses pourquoi. Il ne donne pas de raison. Par contre, il lui parle de sa majesté, de sa puissance en création. Et alors, Job est consolé. Pourquoi Job est-il consolé? Eh bien, parce que Dieu lui a parlé. Il y a un verset où Job dit « Oh, si j'avais quelqu'un pour m'écouter, voici ma signature, que le Dieu Tout-Puissant me réponde. » Et Dieu lui répond et Job est consolé. Il ne sait pas pourquoi l'épreuve est donnée, mais Dieu lui répond. Il sent la présence, la compassion de Dieu. Alors les enfants demandent inlassablement pourquoi, à propos de tout et de rien. Et souvent les parents sont obligés de répondre « parce que ». Et puis c'est tout, hein, on ne dit pas plus. Parce qu'on ne peut pas répondre, parce que l'enfant ne peut pas comprendre la raison. Eh bien Dieu quelquefois agit de la même manière pour nous, parce que tu comprendras plus tard. Alors, ce n'est pas une attitude de résignation, ce n'est pas du fatalisme, comme pour dire, eh bien, je suis obligé de me résigner parce que j'y suis contraint, je ne peux pas faire autrement. Non, c'est un acte de foi en Dieu, en sa sagesse et en sa bonté. Alors, je pense que la réponse principale, qui est la première, on trouvera d'autres réponses, mais la première, c'est que nous faisons partie d'un monde qui souffre. Alors là, nous avons un passage important dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création, toute la création, attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, dans l'espérance que la création elle-même sera aussi affranchie, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. La création attend, la création soupire, la création souffre. Et nous faisons partie de cette création. Et alors, il est impossible que nous soyons indemnes de toute souffrance, puisque nous faisons partie de cette création. Il faudrait que nous sortions du monde pour y échapper. Mais alors, il y a la suite. Nous savons que toute la création soupire ensemble et est en travail jusqu'à maintenant. Ce travail fait allusion à la grossesse, à la délivrance d'une femme. Est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Attendons la délivrance, comme une femme attend la délivrance. Et la délivrance donne le jour à un enfant, un nouveau-né.
une vie nouvelle, une vie, une promesse formidable. C'est quand Jésus reviendra délivrer la création et nous-mêmes de cette souffrance qui pèse sur nous comme un esclavage. La souffrance est comparée à une chaîne, une servitude, un esclavage, dont nous serons tous délivrés quand Jésus reviendra. Bon, autre question, on va peut-être passer là-dessus, c'est un peu secondaire. Le chapitre 3, on va passer dessus aussi, parce que j'ai peur de manquer de temps. Chapitre 4. La souffrance a-t-elle un sens ou est-elle absurde? Pour l'incrédule, la souffrance est absurde. Et justement, pour beaucoup de penseurs, de philosophes, la souffrance est la démonstration que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance dans le monde. Un argument, quelquefois, c'est pas facile à répondre à cet argument-là. Alors, la Bible nous enseigne que la souffrance n'est pas absurde. Alors, les difficultés peuvent être la conséquence d'une faute. Je dis bien « peuvent être », ce n'est pas nécessaire. L'exemple de Jonas, qui n'a pas écouté, qui a désobéi. L'exemple de David, qui a été exercé, qui a souffert lorsque la peste s'est abattue sur son pays. Et on le voit dans le psaume 32. Les difficultés sont formatrices. Alors on a parlé de la formation déjà un peu. On trouve dans Hébreux 10, alors là je vais passer un peu vite parce que tout le monde connaît ces versets, d'Hébreux 10 qui parle de la discipline. Que signifie discipline? Bien, ça signifie formation. On pourrait traduire discipline par formation. Dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Et qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un, un élève qui apprend, qui est en formation avec le Seigneur. Et un disciple, c'est quelqu'un qui écoute le maître, qui le suit, et qui cherche à se conformer au maître. Voilà le disciple. Mais un disciple, d'abord, doit apprendre. Alors la discipline, aucune discipline pour le présent ne semble un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice. Alors on a trois fruits. La sainteté, pour participer à sa sainteté, Hébreux 12, verset 11. La paix, fruit paisible, la justice. Et puis Romains 5 et Jacques 1 nous en rajoutent un quatrième fruit, la patience. L'épreuve produit la patience. Qu'est-ce que c'est la patience? C'est la résistance à la pression, la résistance au choc, la résistance à l'usure. Le forgeron, il y a une jolie article sur Valentin, là, le forgeron. Le forgeron chauffe le fer et une fois que le fer est rouge, brûlant, il le trempe dans l'eau froide. Puis il le met de nouveau au feu et il le martèle et puis il le retrempe dans l'eau froide. Alors il paraît que ce traitement de choc amène le fer à se purger de l'oxygène. Parce que l'oxygène rend la fonte cassante. Et il ne faut pas qu'il reste de l'oxygène dans la fonte, dans le fer. C'est pour ça qu'il faut le rougir au feu et le tremper dans l'eau froide plusieurs fois. Alors voilà, nous avons besoin d'être forgés pour être un instrument dans la main du Seigneur, un instrument bien tranchant s'il s'agit d'une serpe ou bien qui frappe fort s'il s'agit d'un marteau. Paul n'a-t-il pas été formé par l'épreuve pour être capable d'asséner la vérité comme on assène avec un marteau, cette vérité qui brise le roc. Mais Dieu l'avait trempé pour le rendre résistant. Histoire d'Hudson Taylor, j'ai écrit aussi. Alors Hudson Taylor était en Chine, bien sûr, et il était en train de former plusieurs missionnaires. Ils entrent dans un salon de thé, une chambre de thé. On leur sert à chacun un bol de thé fumant. Tout à coup, Hudson Taylor frappe de toutes ses forces de son poing sur la table. Et évidemment, les bols se renversent et le thé coule sur la table. Alors, ses disciples, ses élèves se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, Hudson Taylor
J'ai recopié sa phrase parce que il dit « En Chine, vous allez recevoir les coups les plus variés. Et ce qui est en vous jaillira au dehors. Si Christ est votre vie, chaque fois que vous serez frappé, c'est la vie de Jésus qui se manifestera dans vos corps. » Voilà comment il avertissait les futurs missionnaires. La souffrance amène aussi à découvrir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une force. Romains 8, je ne vais pas le lire, il est bien connu ce verset. Hein. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est puissant. Non. Par celui qui est sage, par celui qui est éternel. Non. Par celui qui est amour. Non. Qui nous a aimés. On remonte à l'origine. L'amour de Dieu éternel, cet amour est notre force, cet amour est notre soutien. Cet amour est vraiment ce qui nous fortifie et ce qui nous porte. L'amour de Dieu est ce qui reste quand on a tout perdu. Alors, elle donne l'épreuve, donne l'expérience de la présence de Dieu, mais j'y reviendrai. Elle amène une meilleure connaissance de Dieu. Job a dit « Maintenant, mon œil t'a vu ». Elle produit une meilleure connaissance de soi. Alors là, on a un verset particulier dans 2 Chroniques 32, verset 31. C'est lorsque, après sa guérison, vous savez qu'Ézéchias a été malade et à la mort, et Dieu l'a guéri. Et ensuite, voilà, une nouvelle épreuve survient. C'est quoi? C'est la flatterie. C'est des ambassadeurs viennent de Babylone faire une visite au roi Ézéchias. Alors, très flatté, Ézéchias leur montre tous ses trésors, les siens propres et ceux de la maison de l'Éternel, comme si c'était à lui. Il a succombé à la tentation de la flatterie. Lui qui avait résisté à la guerre, à l'attaque de Jérusalem par Sennacherib, lui qui avait résisté en quelque sorte à l'épreuve de la maladie, il succombe à la flatterie. Et il est dit, Dieu permet cela afin qu'Ézéchias connût tout ce qui était dans son cœur. Donc Ézéchias avait besoin d'apprendre cette leçon. Deutéronome 8, verset 2, « L'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur. » Alors, connaître ce qui est dans mon cœur, nous avons, dans ces cas-là, mais j'allais dire, c'est une prière de chaque instant, pas seulement quand on souffre. Hein. Psaume 139, « Éprouve-moi et connais mes pensées et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle. » Le psaume 119, je passe un peu, psaume 119, verset 67, « Avant que je fusse affligé, j'errais. J'étais perdu. J'errais loin du chemin. Mais maintenant, je garde ta parole. » Et puis un autre verset, 71, « Il est bon que j'aie été affligé afin que j'apprenne tes lois. » Beaucoup de chrétiens ont confié, après une épreuve, qu'ils étaient reconnaissants envers Dieu de l'avoir permise. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. C'est pas moi qui vais trouver mon frère en lui disant, « Dis donc, il faut que tu demandes à Dieu pourquoi il a permis cette épreuve. » Non. Ce n'est pas à nous d'aller voir quelqu'un en lui disant « Hé, tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé cette épreuve ? Ouh là là ! Alors là, ça va faire de la casse, hein, si on fait ça. Quand Pierre a été présomptueux, il a dit « Moi, je te suivrai où que tu ailles », ce n'est ni Jean ni André, pourtant ils étaient proches, qui sont allés dire à Pierre « Dis donc, tu exagères. » Non. C'est le Seigneur seul qui pouvait parler au cœur de Pierre. Et on retrouve ainsi ce cantique. Hein. Nobody knows the trouble. Personne ne sait, sauf Jésus. Et personne ne peut parler et dire ce qu'il y a peut-être à reprendre dans ma vie. Regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin. Mais ça, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre d'être dans le creuset de l'épreuve pour faire cette prière. Seigneur, tous les jours, nous devrions demander, montre-moi si je suis peut-être en train de prendre la tangente
ou de me refroidir.
L'épreuve peut être envoyée aussi pour détourner du mal. Job 33, verset 17. C'est Élihu qui parle et qui dit « Il ouvre l'oreille aux hommes pour détourner l'homme de ce qu'il fait, pour le préserver de l'orgueil. Il préserve son âme de chute. » Il préserve son âme. Donc, c'est un exercice de miséricorde pour nous éviter un péché, une chute. Quelquefois, une épreuve est là pour nous détourner du mal. Alors la souffrance teste, alors, je crois que tout le monde a entendu parler de cela. Alors l'exemple c'est Abraham, il n'avait rien de particulier à apprendre Abraham. Il ne semble pas qu'à la fin il ait appris une leçon, non. Mais Dieu voulait se glorifier dans son serviteur. Gloire pour Dieu au jour du jugement. Au jour du jugement, les incrédules auront la bouche fermée parce que quand ils seront en face d'un chrétien qu'ils ont persécuté, par exemple, vous croyez qu'ils vont ouvrir la bouche ? Dieu sera glorifié au jour du jugement par la souffrance des martyrs devant leur bourreau. Et puis alors, Jean 11, j'y reviens, que Jésus dit cette maladie de Lazare n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Alors ça a été très dur pour Marie et pour Marthe d'accepter cela. Mais sans le savoir, elles ont participé au plan de Dieu qui voulait glorifier son Fils en ressuscitant Lazare. Elles ne le savaient pas. Elles ont dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais quelle gloire pour le Seigneur. Alors, chapitre 5, problème, question importante, je pense. « Doit-on demander d'être indemne de toute souffrance ?» Alors, vous connaissez ce verset de 1 Chronique 4, verset 10. La mère de Jabez l'a appelée Jabez parce que Jabez signifie douleur. Et elle avait enfanté dans la douleur et au moment où il naît, elle le baptise du nom de douleur, Jabez. Et alors Jabez prie Dieu et lui dit « Si tu me bénissais abondamment et si tu étendais mes limites et si tu me mettais à l'abri du mal en sorte que je sois sans douleur. » Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Alors, est-ce que ça veut dire que nous avons aussi, nous, aujourd'hui, à demander, Seigneur, je voudrais être sans douleur jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous croyez que Dieu va répondre à une prière semblable ? Alors, regardons, replaçons la prière de Jabez dans son contexte. Jabez vivait dans un temps où la richesse, la longue vie, la santé, la famille nombreuse étaient le signe de la bénédiction de Dieu. Quand Jésus est venu, il a prêché sur la montagne. Est-ce qu'il a dit « Vous serez bénis, vous serez riches, vous serez à l'abri de toute douleur » ? Non. Il a dit « Bienheureux vous qui êtes persécutés, bienheureux vous qui pleurez car vous serez consolés, bienheureux vous qui êtes pauvres parce que c'est vous qui verrez Dieu. » Enfin, je cite de mémoire, je fais quelques erreurs. Jésus, dans le discours sur la montagne, a pris pour ainsi dire le contre-pied de l'espérance d'Israël. Notre espérance n'est plus une vie à l'abri du mal. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est participer au royaume de Dieu. C'est ça l'essentiel. Et Jésus dit dans Matthieu aussi, l'essentiel c'est pas... Non, je trouve plus les mots. Rechercher par-dessus tout, le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez pas en souci de comment vous vivrez, mangerez, vous serez vêtus. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais ce n'est pas cela le but de la vie chrétienne. Alors nous avons donc un changement complet d'horizon et de valeur par rapport à Jabez. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas prier pour une guérison. Nous pouvons prier. Je suis le premier à le faire. Pour moi et pour les autres.
si la volonté de Dieu est ainsi, bien sûr. Mais la guérison n'est pas assurée, la guérison n'est pas automatique. Et là, je dis parle de guérison, mais ça peut être dit pour toute épreuve. Alors c'est vrai que Dieu nous écoute, il écoute nos prières, je crois que tu as dû en parler il y a 2 mois. Dieu veut nous bénir, il sait ce dont nous avons besoin. Mais ce serait se tromper d'optique que de demander une vie indemne de toute souffrance. Quand Jésus vient, il commence par être amené par l'Esprit, où ? Dans un désert. Et le diable le tente en lui disant, par la tentation de la facilité. Toi qui es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, tu as faim ? Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain et mange. C'est la tentation de la facilité. Jésus dit non, je ne veux pas tenter Dieu. Et puis il répond surtout, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Ce n'est pas le pain qui compte, c'est Dieu. Il remet chaque chose à sa place. Alors je pense que cette question-là me sonde moi aussi, je pense nous sonde tous, hein. Quel est notre objectif dans la vie ? Quel est notre but ? Est-ce que Paul, dans Philippiens 3, dit « mon but, c'est la richesse, c'est le repos, c'est... » Non. Le but de Paul, c'était l'appel céleste, même s'il fallait qu'il passe par la mort. C'est le sens de sa parole. Même s'il faut être conforme à sa mort. Ça veut dire, même si je dois passer par la mort comme le Christ, mon but, c'est Christ. Et je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, le temps passe, hein. J'arrive au dernier chapitre, mais on va... comment réagir à la souffrance ? Alors, en continuant ce qu'on vient de voir, j'ai mis acceptation, comme le Seigneur a accepté la souffrance. Qui d'autre que Jésus aurait pu être indemne de toute souffrance ? Il est venu du ciel sur la terre. Il aurait pu être à l'abri de toute souffrance. Il est venu pour souffrir. Dans Ésaïe 53, il est dit « Dieu l'a soumis à la souffrance ». Alors ce mot « soumis », pendant très longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il est dit « Dieu l'a soumis à la souffrance ». Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu l'a soumis ? Ça ne veut pas dire que Dieu est un Dieu cruel, pas du tout, comme un despote, un maître qui vise son esclave. Pas du tout, ce n'est pas ça le sens. Le mot « soumission » montre tout simplement qu'il y a un combat, il y a une épreuve là. Jésus a souffert, il y a eu Gethsémané, il y a eu une lutte, un combat. Et c'est pour ça qu'il est question de soumission. Souffrir est contre nature. Il est donc normal que mon être se raidisse contre la souffrance. C'est normal. Et cette soumission, c'est accepter cela. Alors, vous allez dire, on ne peut pas comparer les souffrances du Seigneur avec les nôtres, c'est sûr. Mais la démarche doit être la même. Bon, je passe au 6.2. Des vases de terre. Alors, ce chapitre de Corinthiens, 2 Corinthiens 4, est important aussi. Nos corps sont fragiles, nos corps sont fatigués, ils sont usés. Pourquoi, Seigneur, pourquoi dois-je vivre jusqu'à 94 ans ? Pourquoi dois-je accepter cette décrépitude ? C'est une épreuve, la vieillesse, n'est-ce pas ? Eh bien, pour que la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Pour que la puissance de Dieu soit manifestée dans notre corps. Si nous étions toujours forts, intelligents, jeunes et beaux, c'est l'homme qui serait glorifié, n'est-ce pas ? Ça ne va pas, ça. Dieu veut manifester sa puissance dans nos vies marquées par la faiblesse. Alors je vais raconter brièvement l'histoire de cette... doctoresse indienne, qui a écrit un livre, mais je ne sais plus son titre. Et elle se destinait aux soins des lépreux. Et elle avait fait des études de médecine très longues. Elle était arrivée à être spécialiste. Et puis, elle a eu un accident terrible. Son camion s'est renversé. Elle est tombée avec tous les autres passagers, d'ailleurs. Et elle a été que je ne dise pas de bêtises, tétraplégique, c'est uniquement les jambes. Non, paraplégique, pardon. Uniquement les jambes. Alors, elle est passée par un moment terrible. Seigneur, je voulais te servir. J'ai un champ de travail en Inde, là, pour ces lépreux. Et tu m'arrêtes, mais pourquoi ? Et puis, ça a pris du temps, hein. Et petit à petit, eh bien, elle s'est armée de courage, elle a pris son fauteuil roulant, elle est allée visiter les malades. Alors, l'auteur raconte qu'au dispensaire des lépreux, il y a une file de lépreux qui attendent et qui se chamaillent et qui rouspètent parce qu'elle dure trop longtemps. Tout à coup, le silence se fait. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout à coup tout le monde se tait ? Eh bien parce que la doctoresse arrive dans son fauteuil roulant et vient soigner ses malades. Et c'est un témoignage. Et tous ces malades tout à coup se rendent compte que ce docteur-là, eh bien, il souffre plus qu'eux, autant qu'eux. Et alors ils ne se plaignent plus. VI.3, rechercher la présence divine. Bon, je pense que ça aussi, c'est un thème que vous pourriez le dire à ma place. Hein. La réponse suprême de Dieu, c'est sa présence. On le trouve dans le livre des Actes, dans l'expérience de Paul. Paul était tout seul, après, dans la forteresse, je crois que c'était plus à Jérusalem, Antioche, de Judée. Et alors, il est tout seul et Dieu vient, Jésus vient. Le Seigneur se tint près de lui. Le Seigneur se tint près de lui. C'est pas de la blague, c'est vrai. Le Seigneur est venu dans sa prison. Et le Seigneur est un homme, il peut venir dans ma prison. Dieu, dans toute sa puissance et sa grandeur, ne peut pas venir dans ma prison. Jésus, homme, vient dans ma prison. Il vient dans ses souffrances. Même chose dans l'histoire de Daniel. L'ange descend dans la fournaise avec les trois compagnons de Daniel. Et le roi, tout étonné, dit « Mais n'avons-nous pas jeté trois hommes liés dans cette fournaise et je vois quatre hommes qui marchent libres ?» L'ange est descendu dans la fournaise avec ces trois hommes et il les a portés et protégés, mais au sein du feu. Il y a dans un livre de Porte Ouverte, on raconte l'histoire d'une chrétienne noire, kényane je crois, dont le mari était pasteur et il a été accusé bien sûr et puis il était jugé, son mari était jugé et on interdisait à sa femme d'entrer dans la salle d'audience. Alors dehors elle faisait un tapage monstre pour qu'on la laisse rentrer dans la salle d'audience. Alors le juge dit « Mais qu'est-ce qui se passe dehors ?»« Ah ben c'est la femme du pasteur là qui fait du bruit parce qu'elle veut rentrer. »« Eh bien faites-la rentrer. » Il l'a fait rentrer et il l'a fait battre devant tous. Alors cette chrétienne ensuite a raconté elle lui raconte que elle n'a pas senti les coups. Le Seigneur était là. Elle a senti la présence de Jésus et elle n'a pas senti les coups. Vous voyez, cette présence du Seigneur, c'est le miracle de la fournaise, c'est pareil. Et Dieu accomplit encore ses miracles pour les siens qui vont jusqu'au bout dans leur fidélité. Alors je cite la parole bien connue de Paul Claudel, un chrétien catholique, mais un vrai croyant. « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu même l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. » Alors encore un mot au sujet de la louange. Alors vous voyez, je parle de Paul et Silas, mais je passe, tout le monde le connaît bien, cet épisode qui chantait les louanges de Dieu, alors qu'ils avaient été roués de coups, ils avaient été frappés, ils saignaient sans doute de partout. Hein. Et ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient, et je pense que le geôlier, depuis sa maison, les entendait aussi. Et c'est un témoignage magnifique. Paul en prison, Philippiens 4, s'écrit « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. » Alors j'ai écrit, c'est un motif de gloire pour Dieu qui peut dire à Satan, l'accusateur, « As-tu considéré mes serviteurs Paul et Silas en prison ? Ils chantent. Et toi, Satan, qu'as-tu fait quand tu étais au piédestal de la gloire ? Tu as voulu prendre ma place, tu as péché. Et ces hommes qui sont en prison, qui souffrent, ils chantent ma gloire. » Voilà le témoignage de ces deux hommes pour Dieu devant Satan. Job bénit Dieu après avoir tout perdu. On voit plusieurs exemples de louanges dans la souffrance. Laurie Klein, alors c'est l'auteur du dernier cantique de Reflet, 161 je crois, qui du fond de sa déprime prend sa guitare et compose ce beau cantique. Cette louange qui monte à Dieu comme un doux parfum. Mais j'ai eu l'occasion de le dire déjà ici. Et puis alors, je voulais parler de cette chrétienne chinoise, encore la Chine. Un jour, un jeune missionnaire venant de l'Europe sort très tôt le matin pour aller prier et lire la Bible. Et puis, il voit une femme qui monte aussi la colline, comme lui. Et il l'observe et elle se met à chanter, toute seule. Elle ne savait pas qu'il l'entendait. Une demi-heure. Après, elle lit sa Bible. Je crois que c'est une demi-heure aussi. Après, elle prie. Et après, elle se remet à chanter une demi-heure. Quand elle a fini, elle descend et elle rentre chez elle. C'était très tôt le matin. Le chrétien, le missionnaire la rejoint. Il court. Je voudrais vous parler. Pourquoi vous chantez comme ça toute seule ? Alors elle lui dit, bien, vous savez, j'ai appris à chanter en prison. J'ai passé 10 ans en prison et là j'ai appris que, que le chant était une force. Alors voilà, j'ai fini. Je parlais de la joie, cette joie aussi à laquelle nous sommes exhortés par l'apôtre Jacques. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses épreuves. Mais je reviens encore à cette question de la louange. La louange, même quand on n'a pas envie de chanter, levons les yeux et essayons. Cette même chrétienne, ça me revient, un jour elle était avec une autre qui se plaignait parce que, pour pas grand-chose, elle n'avait pas de cassettophone pour passer ses cantiques. Et alors elle se plaignait. Alors la chrétienne l'écoute, puis au bout d'un moment, vous savez ce qu'elle fait ? Elle commence à chanter, tout doucement, puis de plus en plus fort. Alors, l'autre s'arrête de se plaindre, et puis, elle se met à chanter aussi. Et toutes les deux se mettent à chanter les louanges de Dieu. Vous voyez, la louange qui est une réponse à la souffrance. Voilà, donc j'ai mis une toute petite bibliographie. J'ai dit aussi que j'ai pas abordé un sujet, c'est comment nous devons répondre, nous, à la souffrance des autres, mais je pense que ça, c'est un autre sujet, un sujet à part entière. Je signale le livre « Un chant dans la nuit », ça a été écrit par une sœur de Valence, Lucette Juston, qui a été très très malade toute sa vie, et qui a écrit ce petit livre « Un chant dans la nuit ». Porte ouverte, donc, il y a un livre qui s'appelle « Leçon de souffrance » que je vous recommande. Il y a un autre écrit par une femme, donc Annek Kompanien, « Mais leur joie demeure ». C'est le témoignage de chrétiennes qui ont souffert à cause de leur foi, qui ont été persécutées. Jules-Marcel Nicole, « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» Et puis Paul Lindel, « Le mystère de la souffrance », quelqu'un qui a eu un cancer et qui a été repris assez tôt dans sa vie, alors qu'il avait eu un service magnifique. Et voilà, il est passé par le creuset et il a écrit ce livre à la fin de sa vie sur le mystère de la souffrance. Et j'ai beaucoup appris en lisant son livre. C'est sûr que quand on a un témoignage de quelqu'un qui est passé lui-même par la souffrance, tout de suite ça change les choses. Mais voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole.